France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Comment et pourquoi devient-on maire ? Attention, par maire, il faut entendre les maires à l'origine de la gastronomie lyonnaise. Quel type d'établissement ouvrait-elle ? Quelle cuisine servait-elle dans les années 30 et dans l'après-guerre ? Les années 30 et l'après-guerre qui furent la grande période pour les maires lyonnaises. Oui, des femmes en cuisine que le guide Michelin allait récompenser par une pluie d'étoiles. Rediffusion d'un documentaire proposé pour la première fois sur France Culture le 23 novembre 2010, signé Perrine Kervran et réalisé par Renaud Dalmar.
Bonjour.
Alors ici on est au cœur de l'établissement actuel, c'est-à-dire le cœur du grand restaurant, c'est la cuisine.
Les mères lyonnaises, l'heure de gloire des femmes en cuisine.
Autrefois c'était la limonaderie, là. Ça fait partie des locaux qui ont été réoccupé au début des années 70 en mettant un terme à ce qui avait été une activité pendant trois générations pour permettre l'extension du restaurant. Et c'était toujours l'épouse du père Blanc pendant trois générations avant moi qui héritait du fourneau et qui s'y mettait avec... C'était un peu des autodidactes, elles ont appris beaucoup par elles-mêmes, mais elles avaient quand même le sens de la cuisine. Et ma grand-mère avait appris avec une cuisinière de Venac qui s'appelait Madame Lambert Penet qui lui avait appris. Et ma mère a appris de sa belle-mère.
Et justement, Georges Blanc, vous avez gardé dans cette cuisine aujourd'hui des choses qui sont peut-être des héritiers de la cuisine de votre mère, de votre grand-mère ?
C'est une cuisine qui est toujours élaborée à partir des grands produits, une cuisine saisonnière, mais on a gardé quand même un esprit traditionnel, mais une tradition revisitée. Par exemple, la recette du poulet à la crème de ma grand-mère a été complètement changée. On a enrichi la sauce avec un peu de foie gras, une garniture aromatique plus présente, un peu de vin blanc. Donc les recettes évoluent, c'est-à-dire à partir d'une recette très traditionnelle de mère, on les a revisitées pour les rendre plus actuelles et peut-être un peu plus créatives et plus enrichies, disons.
Des cuisinières de maisons bourgeoises au chômage, une ville industrielle où les femmes ont l'habitude de travailler, les débuts de l'automobile, les premiers guides touristiques des constructeurs, l'Alliance du tourisme et de la gastronomie, une région qui est la terre de produits d'excellence, un maire au bec fin qui veut relancer l'activité de sa ville, la naissance de la critique gastronomique qui met à l'honneur les cuisines régionales, et des industriels et des politiques qui veulent s'encanailler dans des restaurants à l'atmosphère populaire soigneusement mise en scène. Voilà les ingrédients qui ont permis, de 1920 à 1960, aux fameuses mères lyonnaises et à leur cuisine bourgeoise mais familiale, de contribuer à la gloire gastronomique de Lyon et de sa région. Souvent étoilées, tous les gourmets les connaissaient. La mère Guy, la mère Filloux, la mère Brasier, la mère Bourgeois à Priet, la mère Blanc à Vona, la mère Pompon, la mère Allard, tante Alice, tante Paulette, madame Castin à Condrieu, madame Bise à Talloire, la mère Vitet, la mère Jean, madame André ou la mère Léa. Ces femmes dures à la tâche et d'origine modeste sont passées par les cuisines des industriels et des bourgeois de la région avant d'ouvrir des établissements qui ont contribué à créer l'atmosphère particulière des restaurants lyonnais.
Bonjour Christian, voilà Christian Bourriot, qui a travaillé même chez ma grand-mère. Bon, alors nous montons. Bonjour tout le monde.
Une rue étroite sur la presqu'île de Lyon, un petit établissement qui fait un angle, des murs carrelés aux couleurs vives, des salons particuliers, un escalier qui grince. On est dans le restaurant de la mère Brasier, tel qu'il était dans les années 30.
Ça c'est un entresol, et ça c'est l'entrée de l'immeuble. Et ma grand-mère a fait... comment dirais-je, traboulé, comme on dit, les deux. Ah ouais, elle est très jolie, cette photo. Tu y es, là ?
Oui, oui. C'est par image, ça.
Ma grand-mère. Alors, Paul Bocuse, Jean Vétard, Jean Vignard, Roger Aucouge. Vous savez, ma grand-mère, elle a eu 3 étoiles avec du linge basque et des couverts en inox. C'est quand même extraordinaire. À part les carreaux qu'elle avait fait faire. Ça, c'était son Jules. Et alors, si elle est là, c'est grâce ou à cause de... Il s'appelait Pierre. Parce que, naturellement, étant, ayant 35 ans de plus que ma grand-mère, il était marié. Bien évidemment. Il habitait rue Royale. À 19 ans, étant tombée enceinte et habitant dans un petit village, dans une petite, un petit hameau qui s'appelle Dompierre-sur-Velle, qui est dans l'Ain, à côté de Bourg-en-Bresse, ma grand-mère s'est fait mettre à la porte par son père. Donc mon arrière-grand-père l'a mis à la porte, elle ne savait rien faire. Elle avait gardé les vaches et les cochons toute sa vie, elle avait été 6 mois à l'école et encore, et donc elle est partie. Elle a posé son petit, comme on dit vulgairement, elle a posé son petit à Dompierre, elle l'a laissé en nourrice et elle est venue à Lyon, qui était la plus grande ville par rapport à Bourg. Et puis elle s'était dit peut-être que je trouverais plus de travail, mais elle ne savait rien faire. C'est-à-dire qu'elle avait simplement une chose qui était très importante, c'est qu'elle avait du lait. Et vous savez qu'à cette époque, on pouvait se mettre comme nourrice. Donc elle s'est placée comme nourrice et elle a eu une chance absolument insensée. Elle est tombée dans une famille d'industriels qui faisaient des pâtes, parce qu'à Lyon, il y avait beaucoup de gens qui fabriquaient des pâtes. Et elle est tombée chez les pâtes Millat frères, monsieur et madame Millat. Et madame Millat, c'était des gens aisés qui avaient naturellement une cuisinière, une femme de chambre. Et ma grand-mère s'occupait d'une petite fille et elle donnait le sein à une petite fille. Et là, un jour... la cuisinière est tombée malade, ce qui était rarissime parce que de cette époque, on n'était jamais malade, même si on était malade à crever, on continuait à travailler. Et ma grand-mère, c'était un dîner que Madame Millat avait organisé, Madame Millat qui savait faire la cuisine, et elle a dit, Eugénie, on va faire le dîner toutes les deux. Et Madame Millat a trouvé qu'elle avait l'air d'avoir un peu de gingin pour la cuisine. Et Madame Millat était une grande cliente, enfin les Millat étaient des clients de la mère Filloux, qui était la mère de l'époque lyonnaise, la plus connue, qui avait un restaurant qui se trouvait de l'autre côté du Rhône, qui s'appelait Les Brotteaux. Et là, ma grand-mère est allée travailler, Madame Millat l'a fait rentrer chez la mère Filloux.
Elle s'en passe du couvert de cartes avec 2 poêlés de champignons, un suivant, Saint-Pierre, un pigeon carte, 2 amuse-bouches. Ouais.
C'était des jeunes femmes qui avaient travaillé en maison bourgeoise et puis avec les années et les événements divers et variés, entre autres la grande période de la Première Guerre mondiale, ces grandes familles qui avaient les moyens d'avoir du personnel, ben d'un seul coup n'ont plus eu ces moyens. Qu'est-ce qu'on allait faire pour de toutes ces femmes ? Ben, elles avaient un savoir-faire. Elles avaient appris à faire de la cuisine et de la bonne cuisine. Cuisine familiale, certes, mais de la bonne cuisine. Par conséquent, avec les quelques sous qu'elles avaient gagnés, elles montaient leur affaire.
Pierre Grison, habitué des tables lyonnaises et critique gastronomique.
Là, elle a rencontré des gens, d'abord de tout Lyon, allait chez les mères Filloux. Et un jour, par amour, elle est partie monter son propre restaurant. C'était le 10 avril 1921. Et ma grand-mère a atterri 12 rue Royale.
Elle s'en passe au couvert du menu déjeuner. Un croustillant, un cèpe, un suivant, un cornet, une pressa, à point, 2 amuse-bouches.
J'ai fréquenté le restaurant de la mère Filloux. Et je suis allé également chez la mère Brasier.
Raymond Chira, critique de cinéma et fidèle client des restaurants lyonnais.
La mère que j'ai vraiment admirée, comme l'admiraient beaucoup tous les Lyonnais à une certaine époque, et notamment les gens de la mairie, Édouard Herriot en tête, ça a été très certainement le restaurant, je dis le restaurant car elle était morte déjà, le restaurant de la mère Filloux. J'ai dû y aller en 1932, 32 ou 33, je me rappelle très bien, on était allé, toute la famille d'ailleurs, à ce restaurant qui se trouvait à peu près au Brotteaux, c'est-à-dire rue du Quesne. C'était une rue presque campagnarde, avec des petites maisons à 1 ou 2 étages, et à un angle de rue, il y avait donc ce restaurant. C'était vite rempli, et ça se remplissait très très vite. Et il y avait même derrière, je me souviens, une espèce de petit jardinet où elle devait élever des lapins et des poules, je suppose. Et alors, on a mangé ces menus qui étaient des menus traditionnels et dont elle ne sortait pas.
Alors maintenant, on dit les Brotteaux, le 6e, c'est le quartier chic de Lyon. Ça n'était pas tout à fait le cas à l'époque, puisque tout ce secteur près du parc de la Tête d'Or, c'était du marécage, c'était de la friche. Mais justement, quand il n'y a rien, on construit. Et il y avait énormément de chantiers dans le secteur, et les filloux, époux filloux, se sont dit « installons-nous là ». Ouvrons un petit café, et puis, on servira des casse-croûtes, etc., etc., aux ouvriers des chantiers. Puis les ouvriers se sont régalés, ils en ont parlé à leur chef de chantier, qui lui-même en a parlé à l'ingénieur, à l'architecte, qui en a parlé au promoteur, et finalement, elle s'est faite une clientèle de grande, grande, grande qualité, avec une carte qui était, qu'on pourrait dire peut-être aujourd'hui banale, dans ces appellations, mais qui était remarquable au point de vue de la qualité, puisqu'en entrée, c'était ou de la galantine de volaille ou du saucisson de Lyon coupé en rondelles fines. Et puis, en plat principal, soit la quenelle, comme il y en a toujours une ici, ou bien la fameuse volaille demi-deuil, c'est-à-dire une volaille entre chair et peau, on glisse des rondelles de truffes. On en faisait cuire une quinzaine à la fois. Alors, vous en pensez bien que tous les sucs de ces volailles s'accumulaient dans la marmite. Et c'est une marmite qu'on ne vidait jamais. Jamais, jamais. Elle était tout le temps sur le feu. Donc, pas de soucis bactériens ni quoi que ce soit à redouter. Quand il manquait un peu d'eau, on en rajoutait et puis on mettait les volailles.
Le pigeon s'est rosé.
C'était une cuisine qui était simple et familiale. Vous pouvez dire familiale. Il y avait quatre plats qui étaient obligatoires qu'on mangeait chez elle. C'est-à-dire, il y avait cette fameuse volaille demi-deuil qui était ensuite reprise par la mère Brasier. Et puis, il y avait aussi cette composition avec du foie gras qui était présentée dans des fonds d'artichaut. Tout cela était absolument délectable. Je dis délectable parce qu'il m'en est gardé un souvenir d'une espèce de d'onctuosité que l'on dégustait. Je ne parle même pas de la volaille qui était présentée à point comme il fallait. On ne faisait pas de découverte, mais on dégustait des affaires qui étaient cuisinées alors maximum de ce que les sucres pouvaient donner.
Et si on revient, Jacob Brasier, à l'histoire de votre grand-mère, donc elle a ouvert ce restaurant au début des années 20, comment ça s'est passé? Comment est-ce que c'est devenu finalement ce restaurant qui après est extrêmement couru?
Je vous ai parlé tout à l'heure de l'amoureux de ma grand-mère. Donc l'amoureux de ma grand-mère, il était chauffeur de maître et il avait le permis de conduire numéro 4 du Rhône. Il s'appelait Pierre et il était donc le chauffeur de Georges Girard qui faisait des voitures de course. Et il avait rencontré ma grand-mère chez la mère Filloux. Et l'amoureux de ma grand-mère, il était mince, petit, et ma grand-mère, elle pesait 100 kilos à 30 ans et il la trouvait trop belle. Bref, tout ça pour vous dire que c'est comme ça que ça a commencé. En 1924, quand ma grand-mère s'est agrandie, on a délocalisé le Grand Prix de voitures de course de Paris et il est venu à Lyon. Pierre connaissait tout ce monde de voitures de course. Il a fait venir tout le monde chez ma grand-mère et tout d'un coup, tous les grands coureurs sont venus. Il y avait une marque d'huile qui s'appelait la Spidoléine et c'est surtout ça qui a donné un essor formidable à ma grand-mère. La Spidoléine a trouvé que c'était trop beau. Ils venaient déjeuner midi et soir ici et c'était encore un porte-pot. Un porte-pot, c'est-à-dire un petit bistrot où on faisait à 10h on faisait un petit tanka et puis il y avait pas une carte à rallonge. Et ma grand-mère est devenue connue comme ça. Et puis c'était une nourriture que les gens aimaient. Elle a un peu quand même, je dois dire, Christian me démentira pas, elle a un peu pompé sur la mère Filloux, hein. Faut quand même pas exagérer. Elle a fait d'autres choses après, mais quand même, la volaille de Mideuil et les fonds d'artichaut et les quenelles, elle les a quand même un peu pompées.
Si vous voulez, un des succès de la mère Brasier, c'est qu'elle a eu l'intelligence de reprendre les mets de la mère Filloux, de les porter aussi haut, si c'est pas plus haut, hein. Et si vous voulez, les gens, quand ils venaient chez Brasier, c'était, si vous voulez, la filleule de la mère Filloux, parce que la mère Filloux, c'était une cuisinière qui était une des premières cuisinières qu'on conduit mondialement.
Christian Bourriot, longtemps chef de son restaurant étoilé Place des Célestins, a travaillé avec Marguerite Bise et la mère Brasier.
J'ai déjà une carte avec un artichaut carte, un cèpe, un rien à suivre, trois ans de cornet, trois amis de bouche.
Alors, on fait cuire des fonds d'artichaut, des gros fonds d'artichaut, juste normalement avec de l'eau et des oignons. Et ensuite, on détaille des petits ronds dedans, voilà, comme ça. On dispose sur assiette, donc nous on en met 5. Et on fait un espace, et dans cet espace, on va mettre des gouttes de vinaigre balsamique réduit. Ça, on le fait le matin, on peut pas le faire minute, on n'a pas le temps. Parce qu'il y a quand même 1h30 de cuisson, au moins. Ensuite, on détaille des rondins de foie gras qu'on fait rôtir. Sans les dénerver, qu'on va faire retirer entier, après qu'on roule. Et sur le dessus, on dispose pareil du vinaigre balsamique réduit, beaucoup moins réduit pour que ce soit bien plus nappant. Et on fait plusieurs couches en fait. Comme ça, le rondin est noir à l'extérieur et à la couleur du foie gras à l'intérieur. Voilà. Sur le dessus, on met un peu de sel de Maldon, un peu de poivre et un petit peu de vinaigrette à la noisette. Voilà. Ensuite, on a des petits artichauts poivrades, pareil qu'on a fait pocher le matin. Juste avant le dressage, on dispose une bille de foie gras. On fait une terrine de foie gras avec les petits lobes qu'on ne sert pas. Et en fait, on fait des petites billes après dedans. Pareil, assaisonnement sel de Maldon, poivre et un peu d'huile de noisette. Parce que la noisette se marie bien avec l'artichaut et le foie gras. Puis ensuite, on met une petite feuille pour le décor.
En fait, ça, c'est une adaptation d'un plat classique de la mère Brasier.
Voilà, qui a été revu par Mathieu Viennet et chef Christophe.
Un artichaut au menu maintenant.
Ah, ça se termine.
Oui.
Donc, velouté de cèpe, œuf coulant et ad hoc, artichaut et foie gras, brioche champignons et velouté d'artichaut. Je vous souhaite un excellent appétit.
Ça, c'est au col de la Luère. Le premier, qui était en bois. Oui, qui était en bois. Qui était déjà... Non. Et le chalet, le grand chalet, il était à la place de l'actuel. Le grand chalet de bois.
Locataire de son restaurant de la rue Royale, Eugénie Brasier achète en 1928 un chalet au col de la Luère, à 20 km de Lyon. Très vite, ce chalet devient les Beaux Jours, une annexe de son restaurant, qui a de plus en plus de succès. En 1933, les deux restaurants ont 3 étoiles.
En 1941, ma grand-mère décide de raser les chalets de bois et d'en faire un restaurant en pierre.
Et c'était assez audacieux, Jacob Brasier, parce que c'était un pari à l'époque d'imaginer que ce restaurant qui était à l'extérieur de la ville, à une époque où les gens n'avaient pas encore beaucoup de voitures, allait marcher.
Pierre disait, c'est bien pour les gens qui ont des voitures. Donc comme ils étaient passionnés de voitures, qu'ils n'avaient que des clients et des copains qui avaient des voitures, eh bien voilà, on peut bien se mettre à 21 km. Après tout, pourquoi pas? Et ma grand-mère, jusqu'à ce qu'elle se mette complètement en 1946 là-bas, elle l'ouvrait le samedi et dimanche. Et alors, je trouvais ça toujours étrange, je demandais à ma mère, donc la belle-fille de la mère Brasier, je dis, mais comment vous faisiez? Eh bien, elle dit, tu vois, par exemple, il faisait un temps magnifique. La mère disait, bon, allez, on monte au col de la Luère. Elle dit, on prenait les paniers, on mettait les volailles, les artichauts, machin. Mais je dis, mais comment les clients savaient? Elle dit, mais c'était le bouche à oreille, tout d'un coup, tout le monde montait. C'est étrange. Toujours les histoires de voitures. C'est quand même drôle que tout le fil conducteur est toujours avec des voitures.
l'occasion de l'inscription de votre 300e, cette fois, il était naturel que le chef de l'État voulut marquer par un geste particulier toute la sympathie qu'il porte à votre grande appréciation du Touring Club de France.
Albert Lebrun, président de la République, lors du banquet organisé à l'occasion du 300e adhérent du Touring Club de France en décembre 1913.
Né voici près d'un demi-siècle, il a su se créer une place de premier plan dans notre pays par son effort constant pour activer, pour animer, pour faciliter la circulation. Elle devient une véritable force vive qui apporte au service du pays son aide à la fois efficace et opportune. Dans un pays comme la France, qui est véritablement le pays du tourisme par excellence, n'est-ce pas? Nulle part ailleurs, le voyageur ne trouve pour l'accueillir et le retenir cadre plus harmonieux, plus souriant, plus gai, plus attractif. Nulle part, il ne voit une rencontre sur sa route cadre plus constamment renouvelé, rivière aux sinuosités plus calmes, plus d'auberges si alléchantes par la saveur de leurs mets et de leurs vins, par la fraîcheur de leurs fruits, par la bonne grâce de leur hospitalité. Nulle part ailleurs le voyageur ne trouve, se dressant sur sa route, autant de monuments pour chanter les gloires d'un passé plus riche d'une vie grande et prestigieuse de notre nation.
Le moment important, c'est les années 36, c'est-à-dire le Front populaire, les premiers congés payés. On est surpris parfois de voir que dans le guide de Michelin, les étoiles ont été attribuées dans les années 30 sur l'axe Paris-Lyon-Marseille, mais c'est parce que c'était l'axe, la Nationale 6 et la Nationale 7, qu'empruntaient les automobilistes qui descendaient.
Jean-François Mesplède, ancien directeur du guide Michelin, critique gastronomique.
Alors, le guide Michelin en 1900, quand il sort, est en fait un produit marketing du pneu. Fort bien fait, mais un produit marketing. On expliquait en gros aux gens, on vous donne un guide, on vous incite à rouler, ce qui veut dire que si vous roulez, vous allez user des pneus, et si vous usez des pneus, ben c'est bien d'en racheter, de préférence des Michelin. Ensuite, dans les années 20, les étoiles de bonne table apparaissent, et on commence à avoir des références de restaurants où il faut aller, avec d'ailleurs les spécialités pour les restaurants qui sont étoilés. À une époque, Michelin a eu le souci de mailler la France, c'est-à-dire que vous aviez des établissements tous les 15 ou tous les 10 kilomètres. À l'époque, vous aviez toute la périphérie de Lyon, par exemple, qui était très bien couverte parce qu'il y avait ce guide-là, il y avait les guides d'autres marchands de pneus, il y a eu le guide Kléber, il y a eu le guide Continental, certains ont été absorbés, il y a eu effectivement le Touring Club de France qui a fait ses guides parce qu'on s'apercevait qu'il y avait une manne et que les gens pouvaient, principalement d'ailleurs après la guerre, par rapport aux restrictions qu'ils avaient connues, trouver du bonheur en allant dans les restaurants. Et ça a été ces 30 glorieuses où les gens ont fréquenté avec assiduité les restaurants parce qu'ils retrouvaient le bonheur de passer à table et la générosité qui leur avait manqué pendant pas mal d'années.
Ce guide des touristes gastronomes 1957 est remarquable à plus d'un titre. Vous savez que la plupart des guides passent leur temps à vous donner des adresses de garage. Eh bien là, pas du tout. On vous prend par la main, on vous dit il n'y a pas de gastronomie sans tourisme, ni de tourisme sans gastronomie, et on vous dit tenez, regardez d'abord les paysages, ça vous donne de l'appétit. Puis quand vous aurez de l'appétit, on vous donnera l'adresse d'une bonne table, et puis après on vous mènera où? Mais ça, notre ami Simon Arvelot va nous le dire, car c'est rempli de détails, de pittoresques, d'indications sur le pays à voir, n'est-ce pas Simon?
Nous ferons le tour du pays avant de nous mettre à table, voilà.
Et quelles sont les nouveautés?
Les nouveautés, nous avons perfectionné chaque année dans le sens de la simplicité de la table, je ne dis pas bon marché, parce qu'il n'y a pas de gastronomie à très très bon marché, mais enfin, la table simple qui puisse satisfaire les familles nombreuses. Nous avons insisté sur les petites boîtes, les petites auberges de province. Et nous avons systématiquement écarté tout ce qui pouvait être bluff, tout ce qui pouvait, ce que nous appelons vulgairement, le coup de fusil.
Georges Blanc, vous êtes donc installé à Vaunas, où votre mère et votre grand-mère, votre arrière-grand-mère même, étaient déjà installées. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de cette auberge de Vaunas?
Oui, alors en fait, ici, tout a commencé en 1872, c'était la première génération. C'était des paysans qui vivaient au cœur de la Bresse, qui ont décidé d'ouvrir une auberge et aussi fabrique de limonade traditionnellement pendant trois générations. Ça a commencé avec des soupes, des casse-croûtes. Alors ma grand-mère avait pris avec son mari, ils avaient pris la suite de la première génération en 1902. Et elle a tenu en fait jusqu'en 1934. C'est en 1929 qu'elle avait obtenu sa première étoile, le guide Michelin. Elle avait ajouté assez rapidement la seconde en 1931. Du temps de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, ce qui était important, c'était la table d'hôte en semaine, c'est-à-dire elle faisait un menu du jour, toujours élaboré avec des grands produits frais, généralement produits sur place. Et cette table d'hôte, c'est aussi ça qui a contribué à la notoriété des mères, parce que c'était ce qu'on appelait les voyageurs de commerce, les représentants, qui venaient à cette table d'hôte et qui échangeaient leurs bonnes adresses, et c'est comme ça que les réputations se sont faites. On a un petit musée, là, dans la bibliothèque. Oui, je vais vous montrer.
Pour vous, qu'est-ce que la bonne cuisine?
J'ai fait un quatrain par ma vieille amie Mélanie Roit, d'Orgueil-sur-Belon, la papesse des huîtres. J'ai fait un quatrain dont les deux premiers vers sont pour elle et pour sa fille, mais dont les deux derniers ont une tendance, je crois, générale. Couronnant de lys et de roses, Mélanie et Marie et tout ce qu'elles font, la cuisine, c'est quand les choses ont le goût de ce qu'elles sont.
Maurice Kurnonski, prince élu des gastronomes, auteur d'une encyclopédie de la cuisine régionale de France en 28 volumes et fondateur de l'Académie des gastronomes, avril 1955.
Tous les chroniqueurs de l'époque, hein, notamment Kurnonski, prince élu des gastronomes, qui avait écrit sur le livre d'or de la maison qu'il considérait que la mère Blanc était la meilleure cuisinière du monde. Seulement, il avait dû faire un repas exceptionnel ce jour-là, mais ça s'est resté dans nos souvenirs. Et puis donc aussi d'autres, le Club des 100, il avait donné un diplôme. Vous savez, le Club des 100, c'est qui regroupe un peu tous les gens qui sont très attachés à la pérennité de l'art gastronomique, de l'art de la cuisine en France.
Alors Georges Blanc, on est là devant des vitrines où vous avez rassemblé quelques objets qui rappellent un peu justement cet héritage d'Elisa Blanc. Et donc là, je vois, il y a un concours de bonne cuisine du Touring Club de France, donc un menu de 1930, je crois.
1930, oui.
Et vous pouvez nous détailler un peu ce menu?
Oh, c'était le menu classique, vous voyez, avec les grenouilles au beurre d'escargot, c'était marqué, volaille à la crème. Après, il y avait quenelle financière, les crêpes venassiennes, bien sûr. Ensuite, des écrevisses, après le fromage blanc à la crème, et après le dessert, voilà.
Le Club des 100 est né au début du XXe siècle de l'initiative d'un journaliste d'un journal qui s'appelait à l'époque Le Matin, qui s'appelait Forest, et qui souhaitait que la cuisine française retrouve un peu son lustre. Et donc il fallait rassembler ceux qui défendaient la cuisine française. Et c'est assez amusant, dans les années 1900, on disait déjà « elle est menacée, une cuisine venue d'ailleurs », etc.
Jean-François Mesplède.
Le Club des 100, quand on prend les premières listes des adhérents, il y en a beaucoup qui sont rentiers, qui sont avec une particule, qui ont pas mal d'argent. Et ils se sont organisés, ça a été un club effectivement très secret, un peu comme la maçonnerie, très difficile d'y rentrer, il y avait des tests d'admission, et très fermé aux femmes. Il y a eu, je crois, dans toute l'histoire du Club des 100, je crois qu'il y a eu une femme adhérente, à mon avis elle a dû échapper à la sagacité, mais il y a eu une femme sur le nombre de gens. Et ensuite, effectivement, le Club des 100 a distribué des diplômes, les diplômes de membres du Club des 100, ont fait des repas. Il y avait ce qu'on appelle, il y a toujours d'ailleurs, un brigadier qui organisait le repas. Il goûtait les plats, il regardait si dans les plats on était dans l'excellence et dans la rigueur qu'il fallait, si on respectait certains critères, et il donnait des diplômes. Un jour, Kurnonski, c'était en 1934, vous savez, c'est l'époque où certains chroniqueurs gastronomiques se mettaient à table vers midi, on ne savait pas trop quand ils en sortaient, et à quel degré ils en sortaient. Et c'est vrai que Kurnonski, qui avait le dithyrambe facile, avait dit « Lyon est la capitale de la gastronomie ». Et il avait ajouté « parce qu'on y mange bien », en schématisant partout, c'est-à-dire dans les grandes maisons, mais aussi dans ce qu'ils appelaient les boîtes à l'époque, dans les petites boîtes. Et il avait décerné le titre de meilleure cuisinière du monde en vrac à la mère Bourgeois, à la mère Brasier, à la mère Blanc.
Lyon, capitale mondiale de la gastronomie.
Pierre Grison.
En 1934, effectivement, il y a eu les journées gastronomiques qui se sont tenues à Lyon. Et ça a été un déferlement de chefs, à commencer par les chefs locaux, bien sûr, plus des chefs qui sont venus de l'extérieur. Et c'est à cette occasion que Édouard Herriot, qui était maire de Lyon depuis déjà un moment, bien sûr a sauté à pieds joints dessus pour la faire inscrire à l'entrée, à toutes les entrées de la ville. Et c'est vrai que cette image de Lyon a considérablement contribué à son développement. Hein, on venait à Lyon pour manger et on en profitait à la fois pour faire des affaires et puis aussi pour avoir une vision un peu culturelle de la ville et de la région, sans compter tout ce qui pouvait se boire. Et ça, faut pas l'oublier non plus.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
est-il besoin, mes chers auditeurs, que je vous précise que nous assistons actuellement à une séance d'études du Congrès de la gastronomie française qui se tient à Paris depuis plusieurs jours.
Reportage de Georges Decaune au Congrès de la gastronomie française à Paris en novembre 1947.
Bien, vous savez que ce Congrès de la gastronomie française a réuni tous les gourmands et tous les gourmets, non seulement de la capitale, mais aussi de la province, puisque de tous les quatre coins de France sont venus des gens porter leurs recettes, donner leur avis sur les questions qui touchent à la cuisine. Le vrai chef, le vrai prince de la gastronomie française est M. Kurnansky, le président de la Société des gastronomes français, que nous avons le plaisir d'avoir devant notre micro avec quelques-uns des gastronomes, des personnalités gastronomiques françaises, si je peux m'exprimer ainsi. Et je vais demander au prince Kurnansky de nous dire quel a été le but de ce congrès de la gastronomie à Paris.
Ça a été, je crois, l'apothéose de la simplicité de la cuisine française, qui est faite sur la simplicité, sur la probité, sur le talent de nos chefs et de nos cordons bleus. Ça a été aussi l'exaltation de la cuisine régionale, et que la gastronomie française ne mourra point tant que nous aurons nos produits de France qui sont incomparables par la qualité et nos vins de France qui sont incomparables par la variété et la splendeur.
Lyon a une position géographique enviable, c'est-à-dire que Lyon est entre les vignobles de Bourgogne, de Beaujolais, de la vallée du Rhône. D'un côté, vous avez les plaines du Forêt, vous avez les bœufs, etc., du Charolais, vous avez les lacs et les étangs avec les poissons, vous avez la vallée du Rhône avec les fruits. Donc, Lyon est bien placé. En plus, Lyon a toujours été une ville, j'allais dire, riche, avec énormément de trafic, énormément de banques. Ça remonte même aux Romains qui avaient amené cette culture gastronomique. Donc je pense qu'à Lyon, il y a toujours eu cette tradition du bien manger et on a trouvé que c'était important.
On a cassé le four ce matin. Ils sont en train de le démonter. On a cassé la résistance.
Avant, le fourneau était ici, et c'était au charbon,
ah oui.
Et voilà. Alors bien sûr, pas de ventilo. Alors on travaillait dans la graisse, dans le... voilà.
Philippe Rabatel a su apprivoiser la mère Léa pour devenir son successeur dans les cuisines du restaurant La Voûte, où il garde la tradition sur la carte.
Voilà, on fait cuire juste les pommes vapeur, ça c'est le fond de sauce pour cuire les poulets, et puis ça c'est une petite sauce quenelle meunière, quenelle aux écrevisses, voilà.
Au menu, il y a...
Aujourd'hui, bon, on garde tout à fait le menu lyonnais, bien sûr, avec le tablier de sapeur, du reste qui est en train de se préparer. Alors la première partie de l'estomac de la vache, c'est-à-dire, ça s'appelle le bonnet.
Madame Léa Bidot, dans l'avion, Georges Guettari...
Léa Bidot, à bord de l'avion qui inaugure la liaison aérienne Paris-Lyon d'Air France en 1966.
Vous venez de dire, Sophie, Madame Léa Bidot, en fait, il faut dire Madame Léa ou Léa, parce que le restaurant, c'est chez Léa, n'est-ce pas ?
Chez Léa, bon.
Alors, Madame Léa Bidot, quelle est votre recette ?
Eh bien, la recette du tablier de sapeur, c'est un mets lyonnais qui date depuis que le monde est monde. C'est une vieille, vieille tradition lyonnaise.
Vous avez bien noté, Georges Guettari, le tablier de sapeur.
Oui.
Papier-crayon pour toutes les auditrices, comme d'habitude.
Mais j'attends la suite.
Vous attendez la suite.
Le tablier de sapeur, c'est de la tripe qui est coupée, qui est prise dans la panse et coupée en carré, qui est passée dans une panure et frite, c'est-à-dire grillée, servie avec une béarnaise.
Cela me paraît très simple, enfin tout au moins...
Vous allez le noter, Michel, afin que les auditrices qui nous écriront puissent recevoir cette recette lorsqu'elles nous la demanderont.
Eh bien d'accord, je vais poser mon micro pour prendre le stylo.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Donc elle a commencé, elle était du Creusot, hein, bien sûr, et elle a travaillé donc comme femme aide au fourneau dans une maison bourgeoise au Creusot. Et donc, chez les... Je crois que c'était les Schneider. Les Schneider. Et donc, elle a travaillé ça comme ça jusqu'à 18 ans. Et après, toutes ces grosses maisons bourgeoises ont été obligées de plus ou moins de déclarer les ouvriers. Il y en a, ça coûtait cher. Et puis, il y avait un peu la crise. Donc là, elle est partie travailler dans un très grand restaurant. Et ensuite, elle est venue sur Lyon essayer de s'installer. Et elle a démarré comme ça. Rue Tupin, où il y avait anciennement Daniel et Denise. Donc après, en 1942, elle est venue ici, elle avait un associé, et elle faisait la choucroute au champagne. Et donc, elle s'est mise à faire ensuite, démarrer un peu la cuisine lyonnaise, donc le tablier de sapeur, les choses comme ça. Et en même temps, elle faisait beaucoup de sauces, son canard au sang. Elle faisait tout le temps par la saison, elle faisait des petits plats comme ça. Elle était très proche de ses clients. Alors elle passait, elle avait son tablier, elle gardait toujours son torchon, elle me disait, il faut toujours faire comme ça. Alors son torchon, sa fourchette, et puis elle passait, puis elle disait, bonjour mon petit, et machin. Puis elle jouait, parce qu'elle était intelligente. Bon, elle a eu quand même, il faut le savoir, elle a quand même eu une étoile Michelin. Elle a eu la clé d'or à Goemio, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Hein.
Le journal... À mi-parcours de 12-14 pour l'actualité à Paris avec Yves-Paul Vincent. Les titres
1975.
Françoise Giroud n'est pas candidate à la présidence du Parti radical socialiste. Gabriel Péronnet vraisemblablement élu demain à Lyon.
Quel sacrilège vous commettriez si vous partiez avant d'avoir dégusté les quenelles, le saucisson, le gras double, le tout arrosé de Beaujolais, car tous ont acquis des droits à l'immortalité.
La rue Royale est entre la mairie centrale, l'hôtel de ville et l'habitation d'Édouard Herriot.
Jacotte Brasier.
Il est resté maire quand même pendant... combien 50 57 ans, je crois. Et donc, il passait. En plus de ça, il adorait la nourriture. Et il s'est peut-être entiché de ma grand-mère. Comme en plus de ça, ma grand-mère avait des petits salons. Donc, c'était quand même important. Donc, si vous voulez, ma grand-mère est devenue une incontournable... pour la vie politique. Et en plus de ça, c'était la mode. On était fidèles. Alors, chaque industriel avait cinq restaurants, qui allaient du petit bistrot jusqu'à un restaurant gastronomique. Mais les gens tournaient. On aimait être un quelqu'un, comme on pourrait dire maintenant, et on allait tout le temps dans les mêmes restaurants.
Mais c'est vrai que la mère Brasier... devient quelqu'un de considérable.
Jean-François Mesplède.
C'est-à-dire que son petit restaurant est découvert par Édouard Herriot, est découvert par certains chroniqueurs gastronomiques, est découvert par le Guide Michelin, puisqu'elle est la première de l'histoire à avoir deux fois trois étoiles au Guide Michelin, c'est en 1933. Donc c'est vrai qu'elle devient une espèce d'authentique star, même si elle, je pense pas, se prenait la tête avec ça. On dit que le Waldorf Astoria, dans les années 50, a voulu la faire venir aux États-Unis. Elle avait répondu avec sa bonhomie, qu'est-ce que je vais avoir de plus? Je vais avoir découvert un or, ça m'apportera quoi?
À mon avis, toutes ces mères...
Raymond Chira.
Léa, célèbre pour un gratin de macaroni. C'est drôle, ils faisaient vraiment leurs affaires comme ça. Et c'était pas l'atmosphère des bouchons. C'était une atmosphère qui était aussi bourgeoise que la cuisine qu'on mangeait. Les gens venaient faire un pèlerinage gastronomique chez ses mères.
Quand on regarde la manière dont les mères ont fait passer le message de la cuisine, c'était aussi avec cette bonhomie en disant « on met le plat sur la table, puisque vous avez mangé, puisque vous avez aimé, il faut vous resservir ». Et si on ne se resservait pas, c'était terrible, ça voulait dire que c'était pas bon. Donc la manière dont on réagissait avec cette forme de culture à la lyonnaise, parce que c'était un peu comme ça, les mères lyonnaises ont vraiment poussé à mettre cette générosité en avant. Et elles ont, sans le savoir, démocratisé la cuisine qu'elles faisaient pour la bourgeoisie et au plus grand nombre. Alors c'était vital pour elles parce que c'était leur seule façon d'avoir quelque chose pour subsister et derrière toutes ces fumaisons, derrière tous ces bouillons, derrière tous ces plats mijotés, parce qu'avant ça n'était pratiquement que ça, il y avait une immense générosité, quelque chose de elle sortait, elle savait ce que c'était que nourrir les gens, elle savait ce que c'était que nourrir une famille. Là elles avaient à réinventer la cuisine qu'elle faisait auparavant pour uniquement la bourgeoisie, c'est-à-dire avec des assiettes qui étaient en porcelaine, etc., chose qu'elle n'avait plus, mais elles ont gardé ce qui était la quintessence de la cuisine, leur cuisine.
Alain Alexanian, formé par la mère Castin et étoilé dans son restaurant l'Alexandrin, est le produit d'une cuisine féminine et maternelle.
Parce qu'elles sont descendues dans la rue, parce qu'elles ont ouvert des échoppes, parce que c'était avec 2 francs 6 sous au départ, et qu'avec ça, elles émerveillaient les Lyonnais entre autres. Et puis en plus de ça, on prend du bon temps, en plus de ça, il y a une bonne bouteille sur la table, en plus de ça, alors il y a tout un environnement qui a fait que ça a accroché immédiatement, mais c'était pas gagné au départ puisque ça n'existait pas. Et le restaurant aujourd'hui leur doit beaucoup parce que sans cet acte de survie pour elles, ça ne serait pas un acte de vie pour nous.
Je suis par contre la cuisine de femmes. Je dis que les femmes ne prennent pas de risques. C'est une bonne occasion aujourd'hui que je remette toutes les choses au point.
Paul Bocuse, en 1975.
Parce qu'un jour, on m'a posé une question, pourquoi il n'y a pas de femme chef ?
Oui, bien sûr, c'est la grande question qu'on se pose.
Et j'ai répondu, pourquoi il n'y a pas de femme chef d'orchestre ? Pourquoi il n'y a pas de femme architecte ? Il y en a quelques-unes, mais il y en a très peu. Pourquoi il n'y a pas de femme maréchal ferrant ? Pourquoi il n'y a pas de femme forgeron ? Car je pense que le feu est un métier d'homme, c'est la magie du feu, et ce sont les hommes qui s'emparent du feu. Mais le métier de cuisinière, je pense que c'est un métier très dur. Et comme je dis souvent à mes amis, je n'aime pas coucher la nuit avec une femme qui sente la cuisine. Pour moi, la femme chez elle qui fait la cuisine pour sa famille, pour ses enfants, ça, je trouve ça admirable. Mais ce que je reproche aux femmes en général, parce que les journaux en font état, donc on peut y mettre noir, pas noir sur blanc, mais en parole, je reproche aux femmes qui font la cuisine, je m'attirer toutes les foudres, mais tant pis, c'est qu'elles ne sont pas... prennent pas de risques. C'est-à-dire que chaque fois que je vais manger, je parle des femmes, pas des femmes de restaurant. Les femmes de restaurant, c'est quand même un métier très dur et il faut le faire. Mais je parle, par exemple, si vous voulez, les femmes où je suis invité, ma belle-mère ou...
Les ménagères.
Les ménagères. Oui. Eh bien, si je vais manger chez la même une fois tous les ans, eh bien, je suis sûr d'avance le menu qu'elle va me faire parce qu'elle ne va pas prendre de risques.
Elle va trouver le gigot.
Oui, ou alors le soufflé au fromage. Ou alors, ce que je crains encore beaucoup plus quand les femmes m'invitent, c'est le plat qu'elles font pour la première fois. Et elles feraient bien mieux de faire une bonne pomme purée comme elles ont l'habitude de faire, un bon rôti de veau et surtout une bonne salade, parce que je pense que c'est les femmes qui savent le mieux assaisonner la salade que les hommes.
La cuisine, la cuisine, la cuisine.
Alors mesdames, est-ce que Paul Bocuse était misogyne ou non ?
Moi je suis révoltée.
Il ne vous a pas convaincu en tout cas.
Non, il ne vous a pas convaincu.
Pas du tout convaincu. Il le disait d'ailleurs, il craignait bien de soulever une révolution.
Non mais je pense qu'en réalité, il a simplement... Ce problème, c'est le problème général, c'est que les hommes ont ravi aux femmes, parce qu'ils avaient la force, ils ont ravi un certain nombre de choses qui se faisaient à la maison, et ils l'ont transporté sur le plan industriel. Et sur le plan industriel, évidemment, les femmes sont défavorisées, parce que tous les cadres, toute la création est entre les mains des hommes, mais ça ne veut pas dire que les femmes ne soient pas capables de le faire. Mais comme l'a dit si bien M. Bocuse, c'est simplement, on a besoin d'elles pour seconder.
Alors, forcément, au départ, c'était avec du basique qu'elles ont commencé.
Alain Alexanian.
Des queues de bœuf, des tripes, des cardons, enfin, tout ce qui a fait cette cuisine un peu locale. Et sachant qu'elles pouvaient améliorer ça, puisqu'elles le faisaient auparavant, plus elles ont été connues et reconnues, plus elles ont commencé à reprendre les... ces ingrédients de luxe que se trouvaient dans les maisons bourgeoises, qui étaient le foie gras, la truffe et d'autres visions de ce genre. Donc la vraie grande cuisine française leur doit énormément. plus elles ont été reconnues, plus elles ont utilisé ces ingrédients-là, plus cette cuisine, effectivement, basique au départ, c'est ré-embourgeoisé, mais d'une façon différente. On mettait plus de la truffe à outrance, mais par contre, on faisait attention à bien les mettre en lamelles et à les mettre sous la peau pour pas qu'elles s'en aillent. Donc c'était très intelligemment fait, parce que ces mères-là, comme toutes les mères, sont économes avant tout et ont trouvé des moyens de rendre la cuisine luxueuse et à prix intéressant.
Christian Bourillot.
J'ai toujours vu respecter les cuisinières. Il y avait une association qui existe toujours, mais qui est plus du tout pareille qu'au début, qui s'appelait les Toques Blanches. Et on invitait Léa, on invitait la mère Brasier. Et donc, si vous voulez, il y avait toute cette histoire des mères qui ont été, si vous voulez, le fond de commerce de la cuisine lyonnaise.
Il y a des endroits mythiques à Lyon où on se retrouve plusieurs générations confondues.
Jean-François Mesplède.
On fête les événements dans les restaurants à Lyon. Une signature d'un contrat, ça se fait dans un restaurant. C'est-à-dire qu'on ne va pas au restaurant pour fêter la signature du contrat, on le discute dans le restaurant. C'est vrai que la cuisine a une importance capitale dans la vie des Lyonnais, je pense, et je n'ai pas trouvé ça dans d'autres villes. Et je crois qu'il y a eu cette cuisine des mères qui a instituer ça. Il y a eu ensuite, mais dans la foulée, j'allais dire, de la mère Brasier, un de ses plus grands élèves, même s'il a été aussi chez Point, c'est Paul Bocuse. Ensuite, Paul Bocuse a été un formidable ambassadeur pour cette cuisine lyonnaise. Et dans la foulée, il y a eu des gens qui s'appellent Lacombe, qui s'appellent Bourillot, qui s'appellent Landron, qui s'appellent Vétard, qui s'appellent Roucou, qui ont collectionné les étoiles. Lyon a été, à un moment donné, la ville la plus étoilée de France, hormis Paris, qui est à part. Et c'est vrai qu'il y a cette permanence gastronomique qui est venue certainement du fait que les femmes continuent à faire la cuisine et donner envie aux gens de manger et ont suscité peut-être des vocations de cuisiner.
Maurice Kamensky, je vous en prie.
Mais je crois, comme notre bon maître, que la tradition a été admirablement maintenue par nos grands chefs et je dirais par nos grands cordons bleus.
Cependant,
en France, il y a l'élément de la cuisine féminine et je suis très féministe en gastronomie.
En gastronomie, ça va.
Des photos de la brigade, par exemple, du temps de ma mère, c'est dans les années 50, vous voyez, avec ses cuisinières et les serveuses avec le petit tablier.
C'est très féminin comme...
Ah, c'était très féminin, s'il n'y avait que des femmes. Hein.
Georges Blanc.
Le premier homme en cuisine est arrivé pratiquement en même temps que moi au début des années 60.
Et elle vous disait pourquoi votre mère, elle tenait peut-être à cet environnement féminin ou c'était le hasard?
Non, c'était l'habitude de cuisiner entre femmes, hein, et puis toutes les serveuses, il n'y avait pas de garçons, il n'y avait pas de maître d'hôtel, c'était des serveuses qui participaient à tous les travaux du restaurant, rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui.
Il y a eu ces femmes qui sont sorties d'après-guerre ou d'après-misère, donc elles ont accepté de travailler lourdement. Tout à l'heure, je parlais des rôtis qui mijotaient, donc tout était très lourd à peser. Quand il y avait des choses qui mijotaient, il y en avait pour au moins 70 kilos, les fonds, etc. Et c'est vrai que les femmes qui sont devenues femmes, qui sont devenues féminines, ne voulaient plus porter des 70 kilos, être à la buée, être à la chaleur, ouvrir les fours, peser, mettre les mains dans les abats, tout ça, elle ne voulait absolument plus ça. Les femmes se sont un peu éloignées au fur et à mesure du temps. Ça, les hommes ont pris bien sûr ce pouvoir-là parce que elles nous ont formés. Elles avaient le côté matriarcal, mais elles n'avaient pas le côté militaire de ce que la cuisine est devenue tout de suite après elles.
Oui, de Saint-Pierre, venu avec la mère.
Quand on était jeune, on disait t'as qu'à faire cuisinier, t'as qu'à faire boulanger, on te fout derrière, on te voit pas et tout.
Philippe Rabatel.
Grâce à Paul Bocuse, qui nous a fait découvrir dans le monde entier, hein, parce qu'il est parti partout pour vendre notre métier. Et pendant une grande période, les mères qui étaient justement des femmes qui avaient été élevées dans la bourgeoisie, donc en tant qu'ouvrières, sont arrivées sur le marché. Mais après, c'était très très maso, c'était dur. Vous savez, ça a tapé jusqu'en 80, hein, 85. Il y a des chefs qui n'hésitaient pas de les ouvriers à coups de serpillière sur la figure, des poêles bouillantes ou brûlées à la spatule. Quand ça avançait pas, on vous mettait les spatules brûlantes sur les mains. Hein. C'était un métier de barge. Hein. Et après, il y a une évolution, et maintenant c'est beaucoup moins dur. Il y a déjà on respire de l'air. Tandis qu'avant, vous savez, moi j'ai travaillé dans des sous-sols, hein, sur des terres battues, mais à peu près et pas de ventilo ni rien. Quand ça fumait, ça fumait. Hein. Puis maintenant, par contre, on peut dire depuis 10 ans, on voit de plus en plus de femmes.
Merci à Alain Alexanian, Georges Blanc, Christian Bourriot, Jacotte Brasier, Raymond Chira, Pierre Grison, Jean-François Mesplède et Philippe Rabatel. Merci aussi à Pascal Horry et aux amis de Guignol.
Rabatel, cappuccino, menu réclamé. Elle s'en passe au couvert du menu déjeuner, un croustillant, un cèpe, un cimane en cornet, une pressa, un point, 2 amuse-bouches.
Ouais. Prise de son, Chantal Nouvelot.
Elle s'en passe du couvert de cartes avec 2 poêles de champignons, un suivant Saint-Pierre, un pigeon carte, 2 amuse-bouches.
Ouais. Archivina, Aurélie Marsay. Mixage, Benjamin Vignal. Les mères lyonnaises, l'heure de gloire des femmes en cuisine, un documentaire de Perrine Kervran, réalisé par Renaud Dalmar.
Oui.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 novembre 2010.